France Culture.
Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture. Une mémoire radiophonique. Les hommes en 68, les hommes de 68, tous pour la liberté. Tous pour toutes les libertés. Liberté pour les hommes, s'entend. En gros, les hommes à la tribune, les femmes à la cuisine. Il fallut du temps pour resituer le problème des femmes par rapport à la lutte des classes. Il fallut se battre contre les hiérarchies et les étiquettes. Voici La Fabrique de l'Histoire, un documentaire de Séverine Lyotard, réalisé par Charlotte Roux, diffusé pour la première fois sur France Culture le 13 mai 2008.
Vous me trouvez indécente? Vous croyez que je suis le genre qui jette l'argent par les fenêtres, tête en l'air et tout le tralala? Eh ben non.
Les filles de mai se rebellent.
Oui, yeah.
J'ai l'impression d'être un martyr. Pendant des milliers d'années, les femmes ont accepté un rapport normal.
Oh, mais...
Et puis tout d'un coup, paf, c'est fini. Et voit le sexe ailleurs. Et moi, j'arrive au monde juste à ce moment-là. C'est trop injuste.
Je crois que les féministes, enfin en tous les cas, le féminisme avec vraiment l'esprit large, ça oui, je crois vraiment que ça a prolongé autrement le mouvement de mai. C'est-à-dire à la fois, en effet, l'accent sur l'amitié, l'affection, etc. L'accent aussi sur les façons concrètes de subir l'oppression, le refus des systèmes, a priori, ça c'est vraiment quelque chose qui était là en mai. Pour ça, c'était un moment complètement privilégié.
Oui, écoutez, c'est vrai, il est allé manifester au Boulevard Saint-Michel.
Mais dis-lui qu'il va la rappeler dès qu'il est en
vie. Il est en vie. Depuis 2 jours, je suis ici, il va très bien. Et de toute façon...
Aucun rapport.
Bon, écoutez, ça va très bien. De toute façon, dès qu'il revient, je lui dis de vous appeler. Que pour la manifestation de ce soir, il y a un service d'ordre qui est organisé, et qui est très très bien organisé, et je pense pas qu'il y aura de violence. Oui, mais vous en faites pas, la TSF en plus.
Et lui, qu'ils sont tous achetés, là-bas.
À la TSF, on me dit de vous dire qu'ils sont tous des vendus.
Mais bientôt nous l'aurons la TSF.
Mais bientôt nous l'aurons. Mais nous on n'utilise pas un drapeau tricolore. On utilise un drapeau rouge.
Non, noir. Noir.
Moi j'étais très en colère, je veux dire. J'étais très en colère contre les mecs, pas forcément les mecs de mon organisation d'ailleurs, mais en général, j'avais l'impression que c'était vraiment fait avoir par le gauchisme après 68. En 68, déjà, il y avait le vieux machisme qui avait repris du poil de la bête, et puis ça s'était aggravé dans la dépression post-68 tard, où on a commencé à devenir des groupuscules dogmatiques, et c'était le contraire de ce qu'il fallait faire.
On était absolument solidaires de tous mes 68, mais on ne pouvait pas l'être car les hommes nous empêchaient de l'être, puisqu'ils ne nous traitaient pas comme leurs compagnes de lutte, mais comme des objets. Mais autrement, on partageait tous leurs buts. Simplement, on aurait voulu que ces grands idéaux s'appliquent aussi à nous. Ils ne s'appliquaient pas à nous. C'était ça le problème, en tous les cas, vu de leur côté. Donc, il fallait bien que... on se fasse entendre notre voix, et pour la faire entendre, il fallait qu'on arrête d'être noyé dans eux ou dans leurs organisations dominées par eux-mêmes.
Françoise, Liane, Nadia, Annette, Christine, Catherine ou Leslie appartiennent à la génération de mai 68. Elles ont entre 20 et 30 ans. Sont pour certaines impliquées dans le militantisme depuis la guerre d'Algérie et liées, pour la plupart, à des groupuscules maoïstes, spontanéistes, léninistes, trotskistes ou situationnistes. Elles ont milité à l'UEC, l'Union des étudiants communistes, à l'UNEF, l'Union des étudiants de France, ou au PSU, Parti socialiste unifié. Elles ont fondé VLR, Vive la Révolution, ou FMA, Féminin Masculin Avenir, et ont appris du mouvement de mai que tout est politique. Et plus particulièrement, ce qui, depuis toujours, est considéré comme privé, la question des femmes.
Oh,
partigiano, con famiglia. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano.
Elle commence à émettre des critiques sur la permanence de la division sexuelle des tâches dans les groupes révolutionnaires, les hommes à la tribune et les femmes à la Ronéo. Elles en ont marre de s'occuper de l'intendance de la révolution et dénoncent la conception du militant comme un être héroïque, viril et courageux. Une envie s'esquisse et une nécessité s'impose, la non-mixité. Leur mouvement est ouvert, il n'y a ni chef ni adhérent. Nul ne préside les réunions ou n'impose telle ou telle initiative. Elle préfère la spontanéité, avec ses dimensions festives et ludiques, plutôt que l'action structurée. Ces héritières de mai transgressent les schémas révolutionnaires, en affirmant que le savoir sur l'oppression est directement accessible aux opprimés et à eux seuls, et qu'il s'agit de resituer le problème des femmes par rapport à la lutte des classes. Ces féministes, qui sont en train de constituer un mouvement qui va littéralement bouleverser la société française, subvertissent de l'intérieur le mouvement gauchiste en choisissant pour thème la lutte pour l'égalité entre les sexes. Alors vous, Annette Lévy-Villard, vous fréquentez donc les mouvements gauchistes,
marxiste-léniniste. J'avais été brièvement aux étudiants communistes parce que j'étais aussi à Assas, en droit, donc j'étais à Assas et à Nanterre, je faisais droit et sociaux, deux choses à la fois. Et j'avais été à un moment donné dans la foulée de la guerre d'Algérie, très brièvement aux étudiants communistes, et je comprenais absolument rien. Et j'avais été exclue comme maoïste. Parce que toute la section d'Assas, les étudiants de droit avaient été exclus, j'avais toujours rien compris. Donc j'étais plutôt, à cette époque-là, concentrée sur mes études et pas du tout politique.
Et donc, vous, en tant que femme, jeune femme, est-ce que déjà, vous vous posez la question, à savoir, ce sont quand même des mouvements dirigés, même si c'est des petits groupuscules, qui sont quand même dirigés par des hommes, et vous, votre rôle de fille militante ces organisations?
Ça s'est posé très vite, parce que, comme il y avait un aspect de violence dans le mouvement de 68, il y avait les services d'ordre des mecs avec leurs casques, leurs matraques ou je sais pas quoi, leurs blousons, qui étaient là au premier rang et qui nous disaient « Et vous les filles derrière ?» Alors donc, nous, on se battait pas trop au premier rang. En même temps, on était toujours refoulés du premier rang. C'est vrai qu'on n'avait pas les casques, on n'avait pas le côté entraînement des trotskistes et des maoïstes et éventuellement des jeunesses communistes. Donc, on était déjà refoulés. Et puis, dans le début du militantisme, on était quand même envoyés à la cuisine. Moi, j'avais eu le malheur de dire à cette époque que je savais taper à la machine. Parce que mon père m'avait dit, une fille doit savoir taper à la machine. Donc, j'avais pris des cours chez Pigier. Alors, j'étais étudiante, parce qu'il m'a dit, on ne sait jamais. Tu pourras toujours gagner ta vie si tu sais taper à la machine. Bon, donc je savais taper à la machine. J'étais à peu près la seule de cette époque. Il n'y a pas un mec qui savait taper à la machine. Donc, je me suis retrouvée à taper des tracts. Et alors, un jour, je me souviens, j'ai dit, mais je ne comprends pas. C'est une espèce de truc complètement incompréhensible. Et on me dit, tais-toi et tape. Et donc, j'étais vraiment scandalisée. Donc, je suis partie. J'ai dit, bon, je m'en vais. Et d'ailleurs, je voulais faire un récit sur mai 68 qui s'appellerait « Je n'aurais jamais dû dire que je savais taper à la machine ».
Yann Moser, est-ce que vous vous posez, vous, en tant que femme, déjà la question de la répartition des tâches ou qui a le pouvoir, que ce soit à l'UNEF ou à l'UEC?
Il y avait des femmes, mais quand même, souvent, on faisait les pâtes le soir après les grandes AG. On tapait les tracts et c'est comme ça que j'ai appris à taper à la machine. Et parfois, c'était le repos du guerrier aussi. Donc, si vous voulez, il y avait un idéal d'égalité, mais qui, dans les faits, résistait quand même pas mal, quoi.
On était quand même assez peu de femmes dans les milieux anarchistes. Et puis alors, il y avait quelque chose qui aussi nous gênait.
Christine Fauré.
Alors, je donne des précisions. C'est-à-dire que dans le patrimoine anarchiste idéologique, il y avait la libération des femmes. Et évidemment, on était soi-disant mieux que tout le monde sur le sujet. Donc, on n'avait pas besoin d'aller voir ces femmes qui se réunissaient sans hommes, etc., etc. Vous voyez ? Parce qu'il y avait la révolution espagnole. Écoutez, Frédérica Mancini avait été vraiment un ministre femme anarchiste. Il y avait les Athénéos de l'Espagne, c'est-à-dire des maisons de la culture, qui posaient la question de l'éducation des filles. Donc là, nous étions soi-disant en avance. Mais pour la génération à laquelle j'appartenais, nous n'étions pas en avance. C'était exactement pareil qu'à VLR ou ailleurs. Vous voyez, c'était pareil. On ne nous coupait pas la parole. On nous laissait parler si on avait quelque chose à dire. Mais le problème, c'est qu'on avait des difficultés à prendre quand même la parole avec ces gens qui étaient... Parce que dans ce genre de groupe, le savoir comptait beaucoup. Il ne s'agissait pas de dire ce qui nous passait par la tête. Le savoir comptait beaucoup. Donc, il fallait avoir du savoir pour essayer. Même si on avait des ouvriers, mais qui étaient des ouvriers en général très savants, autodidactes, etc. Donc, si on ne savait pas tout sur le sujet, on prenait pas la parole. Voilà. Alors, de fait, c'était un facteur d'inhibition.
C'est vrai, il suffisait qu'il y ait un type dans un meeting pour qu'il parle.
Annette Lévy-Villard.
Il y avait la première chose qui était difficile chez les filles de cette époque, c'était de prendre la parole, c'était d'arriver à parler. Dans le gauchisme, on n'avait jamais une possibilité de prendre la parole, à part une ou deux filles qui vraiment étaient des ovnis et qui étaient assez fortes pour gueuler. Mais grosso modo, les femmes ne parlaient pas. D'ailleurs, dans la classe politique française, il n'y avait pratiquement aucune femme élue. Elles étaient que sous-représentées. Il y avait des exceptions. Il y a eu plus tard Simone Veil. Il y a eu des femmes qui ont joué en politique. Mais il y en avait extrêmement peu. Très, très peu.
Et puis, il y a aussi cette image, cette représentation du militant révolutionnaire. Hein, c'est un guerrier. Il est viril.
Il a des couilles. Hein. C'est quelqu'un qui a des couilles. Voilà. Militant révolutionnaire, c'est le type, là, le mec, le vrai mec, avec son blouson en cuir. Il sera au premier rang. Il va chercher la cogne avec les flics ou avec les fascistes. Il y avait cette image du révolutionnaire. Et alors, du coup, la révolutionnaire, elle n'a pas d'image.
Esta lucha proletaria va contra la explotación. Soy anticapitalista y soy antiimperialista y aquí no hago concesión. Voy contra el capitalismo nacional o extranjero. Los dos explotan lo mismo y algún día le opondremos armado el poder obrero. Los dos explotan lo mismo y algún día le opondremos armado el poder obrero, luego instauraremos una república popular que nos lleve al socialismo científico, como dijo, tal como lo dijo Marx, que nos lleve al socialismo científico, como dijo, tal como lo dijo Marx.
Je suis la société capitaliste et je ne vois rien en remplacement.
Annette Lévy-Villard.
Il s'est passé quelque chose qui, pour moi, a été vraiment la frontière, si je peux dire. Parce qu'on a été soutenir avec VLR, donc qui était une organisation dite Mao Spontec, des Maoïs sympathiques.
Vive la Révolution.
Hein. Vive la Révolution. On a été soutenir des grévistes dans le Nord, des mineurs. On a été avec l'abbé Sartre, je crois, je ne sais plus. On a apporté, nous, de l'argent, le soutien des gens de Paris pour ces mineurs qui représentaient pour nous la classe ouvrière, la vraie, hein, les mines du Nord, la vraie classe ouvrière, comme au 19e siècle. Et donc, on y a été et il se trouve que j'étais là devant le piquet de grève. C'est au milieu de la nuit, 3-4 heures du matin, parce que ça durait toute la nuit. Et il y a deux grévistes qui m'ont demandé si je voulais aller voir l'autre piquet de grève. Comme c'était des camarades de lutte, je me suis dit, bon, je vais pas commencer à me méfier, des choses comme ça. Donc, je suis montée dans leur voiture, ces deux mecs que je connaissais pas. Et à un moment donné, ils m'ont emmenée dans un bois. Et là, la voiture s'est arrêtée. J'étais quand même dans le Nord, je sais même pas où j'étais, 4h du matin. Et j'ai eu la trouille de ma vie. Rien, ils n'ont rien dit, ils ont simplement arrêté le moteur. Et je me suis dit, bon, Il ne faut pas montrer que j'ai peur. Il faut... Et j'ai dit, écoutez, vous savez, s'il m'arrive quelque chose, tout le monde m'a vu partir. On est venu de Paris. Il y a plein de gens. C'est très, très mauvais pour vous. S'il m'arrive quelque chose, il faudrait mieux de remettre en route le moteur et de me ramener tout de suite. Ça va être terrible pour vous. Et tout le monde m'a vu partir. Personne ne m'a vu partir. Donc, j'ai parlé. Et puis, en me disant, bon, il faut tenir le coup. Et ils ont remis en route le moteur. Ils sont repartis, toujours sans dire un mot d'ailleurs. Ils m'ont ramené à l'endroit où il y avait les grévistes. Et je suis rentrée à Paris, folle de rage, en disant, cette classe ouvrière, c'est mes ennemis. Je ne veux plus travailler pour la classe ouvrière, c'est fini. On a fait une réunion avec les filles de VLR où j'ai raconté ce qui s'était passé. Et moi, j'ai dit, c'est fini, fini. Cette histoire que nous, les intellectuels, on doit soutenir la classe ouvrière, pas pour les femmes en tout cas. Et donc, ça a été le début de discussion à VLR sur qu'est-ce qu'on fait, en fait, dans cette organisation gauchiste. Est-ce que c'est notre lutte? Est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut faire? Est-ce qu'on veut écouter ces discours de mecs? Est-ce qu'on veut se battre pour cette classe ouvrière? Ces mecs de la classe ouvrière, c'était pas abstrait. Moi. Pour moi, c'était vraiment des types qui en voulaient à ma peau, quoi.
Justement, VLR était un mouvement qui n'était pas dans le schéma traditionnel marxiste, lutte des classes et que lutte de classes, hein, et les œillères de la lutte des classes.
François Spic.
On était quand même dans la contre-culture, dans la rénovation du modèle révolutionnaire. C'est pour ça qu'on a pu, nous, avoir cette place-là. Mais ce qui n'a pas empêché les contradictions au sein de ces groupes-là, parce que même si on nous reconnaissait, il y a un moment où on a commencé à leur taper sur les nerfs quand même, parce qu'ils voulaient bien qu'on soit des femmes formidables, mais quand ils auraient bien voulu que nos critiques portent sur d'autres que sur eux, tout de même. Et je me souviens d'accusations comme ça, mais vous êtes toujours à vous battre contre les militants au lieu de vous battre contre les bourgeois. Donc ils pouvaient bien admettre que les femmes avaient leur mot à dire, mais quand même, il aurait fallu que ça reste dans un cadre qui leur convenait.
Et vous-même, est-ce que vous ne faites pas votre traité de petite bourgeoise?
Ah ben, bien sûr. Ah ben, ça, on a été traité de petite bourgeoise. Voilà, on a bien sûr, il a bien fallu assumer qu'on était des petites bourgeoises. Mais on disait pas nécessairement le contraire, parce que on était objectivement des petites bourgeoises révolutionnaires, mais pas plus qu'eux. Donc, la seule différence, c'est que comme eux se mettaient au service du peuple, ils n'avaient pas le sentiment de le faire en tant que petits bourgeois. Et en fait, on était, à certains moments, on pouvait être tout à fait aidés aussi par... moi, j'ai souvenir de copains militants ouvriers qui renvoyaient aux gauchistes cette idée-là en disant « Si vous venez militer pour vous laver de vos origines de classe, vous nous faites chier ». Venez militer si vous cherchez quelque chose pour vous aussi dans cette lutte-là. Donc nous, on était tout à fait là-dedans. On avait un intérêt propre à la révolution pour laquelle on se battait.
La première idée qu'on a quand on a été violé, c'est de se terrer, de se cacher. On a l'impression d'avoir tellement été nié, d'avoir été écrasé, de plus exister du tout, c'est vrai qu'on n'a pas du tout une attitude offensive.
On peut même se demander si un certain nombre de femmes ne portent pas plainte parce qu'elles ont été tranquillement remises sur les rails d'une vie sexuelle normale, assouvissante, affectueuse et dans de bonnes conditions. Vous êtes jeune et belle, vous allez encore séduire des garçons.
Catherine Dedon.
Il y a toujours eu comme ça des conflits avec les gauchistes. Il y en a eu encore un très très fort sur les histoires de viol. Parce que dans les histoires de viol, nous on demandait, il y avait une complicité de toute la société par rapport au viol. Les femmes qui étaient victimes de viol étaient considérées comme des tentatrices. Donc c'était de leur faute en fait, la plupart du temps. Et les violeurs n'étaient presque jamais condamnés. Donc nous, on a réclamé la condamnation des violeurs. On a demandé que ça passe à une instance juridictionnelle beaucoup plus sévère, etc. Et là, on a eu une levée de boucliers des gauchistes qui, eux, luttaient pour justement que la prison disparaisse, alors que nous, ben voilà, on réclamait des peines de prison, quoi. Donc voilà, il y a encore eu là une lutte contre les gauchistes, quoi.
Finalement, vous dites aussi, Catherine Dedon, à ce moment-là, notamment par rapport au viol, que il n'y a pas de sexualité de classe. Enfin, c'est un peu ce que renvoient les gauchistes, c'est-à-dire oui, mais les classes ouvrières, si elles violent,
oui, c'est voilà, toute
une problématique.
De, oui, voilà, leur grand truc, c'était les classes pauvres sont en butte à la misère sexuelle, et c'était la bonne excuse pour violer. Les femmes, elles sont autant dans la misère sexuelle, elles violent pas les mecs. Alors vous me direz, elles n'ont pas la même force physique que la plupart des hommes, mais bon, est-ce que vivre en société, c'est pas aussi essayer de justement de ne plus être dans la loi du plus fort ?
Leslie Kaplan.
Au printemps, mais ça je m'en souvenais, qu'au printemps 70, j'avais écrit un texte qui ensuite a été publié dans l'Idiot International, mais sous une forme anonyme. Je vais vous lire un peu de ça. Ça a commencé comme ça. Elles sont des objets, des marchandises, parées, apprêtées. Elles subissent et monnayent. Elles ont une fonction, elles servent à quelque chose de défini, elles sont faites pour. C'est chez elles que l'esprit marchand, l'esprit de concurrence a été le plus intériorisé. Elles se vendent elles-mêmes spontanément, se parent, se mettent en valeur. À première vue, elles n'ont pas de recul par rapport à leur acheteur, elles cherchent le mec, c'est le vocabulaire de l'époque. Elles inventent des artifices, alors que l'ouvrier traîne pas mal la savate en allant à l'embauche. Entre elles, elles assument spontanément une concurrence acharnée, sont mesquines, jalouses, méchantes, se mettent en valeur en dévalorisant les autres. Elles restent dans le champ de l'offre et de la demande. Une marchandise chasse l'autre. Elles semblent avoir vraiment intériorisé les contradictions de leurs conditions. Elles pleurent, elles dévoient leur révolte, la retournent sur elles-mêmes, se culpabilisent. Elles font des histoires, des complications, elles sont emmerdantes. Elles rusent, ne sont pas franches. Elles se complaisent dans leurs faiblesses. Elles se laissent faire, elles sont passives. Passives, c'est plutôt qu'elles se bloquent, sont bloquées. Quelle violence elles se sont faites. Elles ne savent pas bien qui elles sont, où elles en sont. Elles sont un peu folles, doubles en tout cas. Mais quelle est la vérité de cette marchandise? Quel est le besoin qui a façonné cet objet? Dépasser un point de vue matérialiste étroit, abstrait. Elle sert à la baise, la bouffe, les enfants. Car on ne baise ni le bouffe ni n'élève ses enfants n'importe comment. En somme, quel homme est-ce qui a besoin de baiser une telle femme? Il veut un objet, un animal, une présence, une chaleur, un miroir mais spécial. Ce qu'il cherche au fond, c'est être rassuré. Ce qui lui appartient entièrement et qui est là pour l'aider à vivre. C'est pourquoi elle est intuitive, qu'elle n'a pas accès au concept, à l'abstraction, etc. Bon, elle est sa propriété, tatata. Ainsi, comprendre le besoin qu'il a créé, c'est déjà commencer à voir un peu plus loin, c'est commencer à saisir la place, la fonction qu'on occupe dans un système d'oppression général, esclave, mais esclave de l'esclave, une façon d'opium. Autrement dit, la femme ne se libérera qu'en libérant toute l'humanité.
Alors, je vais vous raconter une anecdote. C'est autour du numéro 12 de Tout et du numéro 15 de Tout.
Françoise Pic.
Donc ce journal, ce numéro de Tout, a été organisé beaucoup par Guy Hockenghem et Le Phare. Donc c'est un numéro qu'on avait dit un numéro apolitique, c'est-à-dire que ça ne devait parler que de la vie, et en fait ça ne parlait que de cul. Et le problème, c'est que donc ce journal présente la sexualité d'une façon qui ne nous convient pas du tout. Puisque c'est tout est sur le mode de la jouissance, mais nous, en tant que femmes et féministes, on ne se sent pas bien dans cette modalité-là de sexualité. C'est une sexualité réduite à elle-même. Et donc, un petit groupe de femmes réagissent contre ça et écrivent des textes de dénonciation des pratiques sexuelles autour du comité de rédaction de Tout. Et donc, on retourne ce qui était présenté comme subversif de nouveaux modes de relations interpersonnelles. Et donc, c'est les femmes dénoncent la façon dont elles sont traitées dans ces rapports-là. C'est assez violent, c'est assez drôle et assez violent. Il y a 5 ou 6 femmes qui racontent leurs histoires personnelles. Et J'accompagne ces femmes comme d'autres. On est un groupe et on va au comité de rédaction de tout apporter ce texte. Ça, ils n'ont pas supporté du tout. Et alors, pour la première fois de l'histoire de tout, il y a de la censure qui se dessine. Ils ne veulent pas passer le texte des femmes. Donc, et finalement, ils nous disent que ce texte ne passera que s'il est accompagné d'un texte politique qui explique notre position. Et donc, l'objectif qu'on a dans les semaines qui suivent, c'est d'exprimer politiquement quelque chose qui sort de ce cri de protestation. Et puis, finalement, ce texte s'écrit. Et donc, ce texte s'appelle « Votre libération sexuelle n'est pas la nôtre ». Si vous voulez, ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est la vision politique de la sexualité. Et là, on a apporté une critique féministe de la libération sexuelle vue par les gauchistes. Avec le MLF, on ne jouit pas sans entrave parce que la jouissance n'est pas notre objectif. Notre objectif, c'est la libération et la jouissance, ce n'est pas nécessairement la libération. Comme on disait dans ce texte, on peut parfaitement jouir dans des situations de domination. Et voilà. Donc notre objet, c'est de transformer les relations entre les hommes et les femmes et de déconstruire les rapports de pouvoir qui sont dans les rapports entre les hommes et les femmes.
La double journée, pauvre maman, c'est bien épuisant et c'est mal payé. Friedrich Engels l'avait dit, dans la famille aujourd'hui, l'homme est le bourgeois et la femme est le prolétariat.
Même à l'intérieur de VLR, il y a des choses dont on ne parlait pas.
Nadia Ringard.
Simplement parce que ça ne nous venait pas à l'idée que ça pouvait être des thèmes politiques. Et pire même, c'était considéré comme un infrapolitique. C'est-à-dire que le fait de s'intéresser à ces choses-là, c'était quand même pas formidablement bien vu par la plupart des hommes de l'organisation. La contraception, l'avortement, le viol, les violences intrafamiliales, comme on dit aujourd'hui, on en parlait très peu, alors que on savait qu'il y en avait dans certains groupes gauchistes. C'est une des choses qui nous avait... mais vraiment hérissé, c'était d'apprendre que dans certains groupes, un homme avait battu sa femme. Et on a un petit peu commencé comme ça, en se disant, si un homme bat sa femme, on n'était pas dans la nuance, hein, c'est un fasciste. C'est-à-dire que c'est pas un problème privé, c'est pas un problème personnel, c'est bien un problème politique, et il faut le traiter comme un problème politique. Mais ça, ça a été une lutte même à l'intérieur de VLR. C'était pas évident d'aborder des sujets comme ça. Et nous-mêmes, on était porteuses d'une partie de ce langage qu'on était en train de récuser de plus en plus.
Nous, ce qu'on voit, c'est qu'on a des contradictions en tant que femme,
François Spic,
avec telle ou telle catégorie, et qu'on ne mettra pas notre intérêt de femme sous le boisseau pour défendre telle ou telle catégorie. Donc ça s'est posé avec comme on disait, les travailleurs immigrés à l'époque, dans des histoires de viol, par exemple. Il y a un moment où on a pris la décision que nos intérêts de femmes ne pouvaient pas être mis derrière quoi que ce soit.
Ça m'agace d'entendre le même langage chez toutes les filles maintenant. J'ai l'impression que vous avez toutes perdu votre individualité. Vous êtes des robots, voilà. Vous récitez toutes le même cours.
Toujours la même défense des mecs. C'est pas un cours, c'est une prise de conscience collective.
Mais non, elle te concerne pas.
Nadia Ringard.
C'est-à-dire qu'à partir du moment où cette question des femmes et du féminisme apparaît, on a soit la solution d'essayer de la faire entrer à toute force dans des théories préétablies, soit l'idée que ça va bouleverser toutes les théories et qu'on a la vie devant nous pour repenser de façon non pas idéologique, au sens où l'idéologie serait une explication fermée, mais de façon théorique, oui, repenser les luttes entre les classes ou les luttes entre les femmes et les hommes à l'intérieur de chaque classe. Mais sur le moment, on ne retraverse pas tout de suite la théorie. Certaines vont le faire très vite, mais je crois qu'en 70, on est surtout occupé à imposer une parole.
Leslie Kaplan.
Je pense que moi, en tant qu'Américaine, j'étais très
intéressée et saisie par le mouvement des Panthères Noires, les Black Panthers qui commençaient. Bon, en tous les cas, on commençait à en entendre parler vraiment. Et je pense que je faisais aussi des liens entre ça et, l'oppression des femmes, les minorités et tout. Et bon, tout ça travaillait beaucoup, mais on restait, en tout cas, moi, je sais que je restais très marxiste dans ma vision des choses, mais on commençait à avoir un point de vue plus personnel, disons, tout en gardant l'idée de quelque chose qui resterait universel.
Christine Delphi.
Grosso modo, si vous voulez, ce que j'ai théorisé, c'est l'exploitation des femmes, l'exploitation économique des femmes, et je ne l'ai pas située principalement dans le secteur salarié. J'ai dit, elle existe dans le secteur salarié, dans le secteur marchand en général. Hein. Mais elle part d'une exploitation qui se fait à la maison, et c'est l'exploitation du travail domestique par les maris ou compagnons, ou maintenant on dirait les concubins ou les paxés, etc. Voilà.
Et par la société aussi dans son ensemble, qui entérine un système comme ça d'économie domestique.
Je sais pas, vous savez, bien entendu, les maris ne sont pas, ou les compagnons, c'est pas eux qui ont inventé le système. Hein. Et puis, si c'était illégal, ça se saurait, ça pourrait pas se faire, bien entendu, oui. Je veux dire que ce sont eux les bénéficiaires, mais en fait, c'est en tant qu'ils appartiennent aux membres de ce groupe des hommes, voilà.
Et donc, c'est ce que vous appelez, vous, Christine Delphi, donc le patriarcat. Donc, il s'agit...
Carrément. Je n'y vais pas par quatre chemins, j'appelle ça le patriarcat. Disons que je pense que je garde le cadre marxiste, ou plus exactement la méthode marxiste. D'une part, je dis que la lutte des classes, c'est-à-dire l'oppression par le capital, évidemment, l'exploitation capitaliste ne peut pas rendre compte de l'oppression des femmes, ou ne peut pas entièrement en rendre compte. Or, c'était justement comme ça que c'était considéré. Les femmes, par exemple, dans la théorie des classes classiques, et c'est encore le cas, malheureusement, 30 ou 40 ans après, il y a une surexploitation des femmes. Et on ne se demande pas d'où elle vient. Hein. C'est comme si elle était justement... Elle venait du fait qu'elles sont des femmes. Ou quand on parle de la surexploitation des immigrés, c'est parce qu'ils sont immigrés. Non, mais ça ne veut rien dire, voilà. Pourquoi est-ce qu'on peut surexploiter justement une femme ou un immigré? C'est ça la question qu'il faut se poser. D'une part, et que d'autre part, ce travail gratuit, appelé travail ménager ou travail domestique, etc., n'est absolument pas pris en compte. Donc, je me suis servi, si vous voulez, du marxisme pour dire qu'il n'y a pas d'oppression qui n'ait pas une racine économique, mais dans le sens d'avoir d'avoir à la clé des bénéfices très tangibles, qui ne sont pas juste d'ordre matériel, hein, qui sont beaucoup plus généraux, mais qui sont quand même forcément fondés sur ou accompagnés de l'exploitation du travail d'autrui. Voilà. Or ça n'était pas, si vous voulez, on disait, oui, les femmes sont exploitées en tant qu'elles sont salariées. Mais par exemple, en tant qu'épouse ou mère, elles ne sont pas exploitées, et en particulier si elles ne sont pas sur le marché du travail.
Catherine Dedeau.
On est déjà sceptique sur attendez la révolution et tout sera résolu. C'est vrai que nous, on pose ce truc qui va entraîner toute une logique qui est non, la révolution socialiste ne résoudra pas, et la lutte des classes ne résoudra pas le problème de l'oppression des femmes.
Oui. Chantons de nos tanières où nous sommes parqués, nous en avons. Vers la honte de la terre, avalons le bourgeois et l'homme patriarcal, avalons le météo et l'homme capitalo.
On en a marre d'essuyer le derrière des luttes sourières.
Françoise Pic.
Oui, le militantisme change de nature puisqu'il ne s'agit plus de lutter pour la cause du peuple, pour les opprimés, pour etc., mais de lutter pour sa propre libération. Donc, d'accepter de se voir comme opprimé, mais quand on se voit comme opprimé, on ne se voit pas pour autant comme misérable. Dans la mesure où, justement, on lutte contre son oppression, ça change totalement le rapport à cette oppression, ça devient un enjeu et un enjeu collectif pour lequel on se bat. C'est ça la découverte de la non-mixité. Parce que tant qu'on ne s'est pas retrouvé entre nous, tant qu'on est chacune dans son coin, on n'a pas le sentiment qu'on veut rompre avec ça. Mais entre nous, ça circule très vite. Ça circule donc, par exemple, le texte qui a été publié dans Partisan, parce que Partisan, le numéro Libération des femmes année zéro, qui est sorti à la rentrée 70, c'est vraiment le point de le fondement de ce qui va faire le féminisme. Alors il y a des textes qui viennent d'Amérique et puis il y a des textes écrits par certaines ici. Donc finalement on se fabrique des idées communes à partir de ça. Donc en ce qui concerne les relations avec les organisations gauchistes, bon, il y a un texte américain d'ailleurs qui ressemblait bien à ça, où on se retrouvait, mais surtout il y a un texte français qui s'appelle « Les militantes » qui est signé J.K. et qui est vraiment une critique féministe du gauchisme dans laquelle on se retrouve et on est d'accord et on porte cette idée-là. L'idée de la remise en question, non seulement la remise en question de la division sexuelle du travail militant, mais aussi finalement la remise en question de l'avant-gardisme, de l'idée que les militants savent mieux que le peuple ce qui est bon pour le peuple.
Et la question de la non-mixité, Christine Fauré, donc vous la discutez entre vous, hein, notamment peut-être avec les filles de VLR, Annette Lévy-Villard, Françoise Pic ou Nadia Ringard, et avec vos camarades masculins, comment c'est perçu à l'époque?
Écoutez, moi c'était pas très très bien perçu. Je me souviens qu'il y a eu quelques brimades, quelques commandos plus ou moins pas très méchants, hein, il faut pas non plus exagérer, de camarades trotskistes qui se sont amenés à 11h du soir en demandant ce qui nous arrivait, etc., etc. Bon, je veux dire, cette non-mixité n'a pas été appréciée, ça c'est clair, mais il est clair aussi que si on voulait apprendre à parler, il fallait être... La non-mixité était une espèce de voie absolument obligatoire pour essayer de prendre confiance en soi-même. Et vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point on en avait besoin.
Mais les filles qui sont plus armées, les filles qui ont déjà beaucoup discuté, il faut absolument qu'elles discutent dans des groupes mixtes parce que dans notre travail, on est tous ensemble face au patronat, à l'État, etc. Et on lutte ensemble. Il faut que là aussi, on acquiert notre place et c'est qu'en étant avec eux qu'on l'acquérera, cette place. C'est pas en se défilant dans des groupes.
Mais actuellement, ce qui fait la force des groupes femmes, c'est justement qu'ils soient autonomes. Si les hommes, encore une fois, viennent dans les groupes femmes pour par démagogie, pour essayer de récupérer le mouvement, alors on retombera toujours pareil.
La non-mixité, elle est tout de suite apparue comme fondatrice.
Françoise Pic.
Parce que ça a été une découverte. La façon dont on parlait entre femmes, c'était pas du tout la même chose que quand on était avec des hommes. Non seulement il y avait une différence dans la hiérarchie, c'est-à-dire que les hommes prennent la parole beaucoup plus que les femmes, mais il y avait une différence dans le contenu, dans la façon de s'exprimer, dans le niveau de la politique qu'on exprimait. C'est-à-dire que la politique était quelque chose de beaucoup moins abstrait, quelque chose qui partait beaucoup plus de ce qu'on sentait. On pouvait davantage généraliser à partir de soi, alors que dans les organisations dominées par les hommes, il y avait peut-être davantage une théorie dans laquelle il fallait s'inscrire.
Annette Lévy-Villard.
Nous, quand on se réunissait et qu'on était aux Beaux-Arts au début et on mettait les copains dehors, c'était très très violent parce qu'ils ne comprenaient pas pourquoi on les mettait dehors. Mais c'était ça, il fallait marquer une nouvelle époque historique. Alors même on habitait avec eux, on couchait avec eux, on vivait avec eux, on était amoureuses d'eux. Enfin, il n'y avait pas que des homosexuels dans le mouvement, même s'il y en avait beaucoup. Il y avait toute une partie de ce mouvement où c'était des hétérosexuels. Donc les hommes étaient toujours là dans notre vie, mais pas dans nos réunions. Et ça, c'était très très choquant pour eux. Alors, comment on nous mettait dehors?
Liane Moser.
Je me souviens, quand on sortait de ces AG, c'était très violent de la part des hommes. Ils frappaient à la porte, à l'amphi des Beaux-Arts, en disant « Laissez-nous rentrer, salope !» etc. Et quand on sortait de l'AG des Beaux-Arts, il y a un tabac qui, je crois, existe encore, boulevard Saint-Germain, qui s'appelle le Saint-Claude, qui est à côté de Saint-Germain-des-Prés, là. Et on draguait les hommes, ou on les envoyait chier en groupe, vous voyez. Et puis on s'installait au bistrot. Enfin, on avait un espèce de côté, du coup, un peu caricatural, de contre-exemple, hein, de contre-dépendance. Mais
On a tellement rigolé.
Quelle fraîcheur, on dirait que c'est neuf.
Je lave dans pec, et voilà tout.
Quand tu auras sorti de la mousse, ta main si douce, donne-la-moi. À la mairie, puis à l'église, dis-la Marie, tu veux de moi.
Si c'est pour laver tes chemises, crois-moi mon gars, tu repasseras.
Oui papa, oui chérie, oui patron, y en a marre. Oui papa, oui chérie, oui patron, y en a marre.
Là on me proposait la non-mixité, après, j'ai réfléchi sur cette non-mixité.
Catherine Dedon.
Et je me suis dit, oui, bon, bah, c'est un excellent moyen pour que les femmes puissent parler sans le contrôle des hommes, de choses très intimes, comme leur sexualité, parce qu'à mon avis, elles n'en parlent pas aussi bien sous le contrôle des hommes. Et bon, mais ceci dit, peut-être qu'il y a d'autres choses qui se passent qui sont pas bien non plus. Rien qu'entre femmes, peut-être que c'est pas non plus la vérité qui sort de ça. Hein. Et puis, au fur et à mesure, j'ai aussi compris que cette non-mixité, elle avait un aspect très intéressant, c'est qu'elle renvoyait à la société la non-mixité dans laquelle on était les femmes étaient enfermées, mais d'une manière offensive. Et c'est ça que la plupart des gens n'ont pas supporté. C'est pas la non-mixité qu'ils n'ont pas supporté, puisqu'ils la supportaient très bien dans la société, mais quand elle est devenue offensive, et ben, ils la supportaient pas du tout. Et nous, on avait quelque chose de très fort, c'est qu'on disait aux gens qui nous reprochaient ça, on leur disait, mais écoutez, nous, on ne vous empêche pas de faire un mouvement mixte si vous voulez en faire un. Et ils n'ont jamais réussi à en faire un. Voilà le truc. Et puis, bon, l'autre chose qui était très forte, c'était qu'on était dans un mouvement non mixte, mais qui luttait pour la mixité dans la société. Hein, les écoles mixtes, bon voilà, on voulait plus cette séparation qu'il y avait entre les hommes et les femmes dans plein de domaines, quoi. Et bon, donc ça c'était quand même un argument assez fort, mais qu'on a trouvé assez tard. Hein. On l'a eu très tard, cet argument.
Annette Lévy-Villard.
Ça a libéré énormément de choses, et surtout en France où le poids idéologique, le poids de la théorie était terriblement pesant. On était quand même, on sortait du marxisme, de cet aspect. Après, il y a eu le maoïsme, il y a eu le trotskisme, et tout ça était quand même, et le Parti communiste qui était quand même encore assez fort, était très très pesant. Et les femmes ont réussi à faire bouger tout ça, surtout en sortant.
On n'a absolument pas d'étiquette sur le dos, et qui plus est, le terme MLF.
Nadia Ringard.
C'est une invention de la presse. C'est-à-dire que nous, on disait le mouvement, parce que le mouvement, ça a un côté ample, ça bouge et c'est inventif. Le MLF, c'est un sigle. On ne voulait pas de sigle, on ne voulait pas de chef, on ne voulait pas de hiérarchie et évidemment pas d'étiquette.
Donc effectivement, quand on s'est constitué un mouvement des femmes, on s'est beaucoup constitué en réaction,
Françoise Pic,
à ce qui existait ailleurs, dans chez les gauchistes, dans les organisations. Eh ben, on n'a pas voulu reproduire ce qu'on y avait trouvé. Donc on est dans des choses qui sont où la spontanéité est absolument posée en principe absolu, ce qui à la longue provoquera quelques problèmes, mais au début, c'est vraiment une découverte extraordinaire, puisque c'est la libération de la parole. Alors, il y a des personnalités fascinantes, tout le monde n'est pas fasciné par les mêmes, hein. Donc, selon les désirs des unes et des autres, ben, on fait telle ou telle action dans lesquelles on se retrouve, et on ne cherche pas du tout à se structurer, ni en... Enfin, dans la première partie du mouvement, hein, jusqu'à 75, en gros... c'est assez fluide. Alors, il y a un petit peu quand même des tendances qui se dessinent, mais elles ne sont pas encore figées.
Bon, on se trouvait très bien dans la non-mixité, ça marchait très bien.
Catherine Dedon.
Les femmes étaient passionnées, avaient des discussions très passionnées, qui avaient un inconvénient aussi, parce que c'était un peu la jungle, hein, c'était un peu les grandes gueules qui passaient par-dessus celles qui se taisaient, qui avaient peut-être autant de choses à dire, et qui l'auraient peut-être dit plus facilement dans quelque chose de... où il y aurait eu une distribution de la parole. Mais bon, des grandes gueules, il y en avait beaucoup. Il n'y avait pas la grande gueule Grivine ou la grande gueule Besancenot, il y avait beaucoup de grandes gueules. Donc, quelque part, ça provoquait un foisonnement d'idées, un foisonnement d'actions. Bon, par exemple, quelqu'un proposait une action, qui voulait venir, qui voulait l'organiser. Et donc, il n'y avait personne pour dire « Non, ça, il ne faut pas le faire parce que ceci, parce que cela ». Ça se faisait et on y venait ou on n'y venait pas. Moi, j'appartenais à un groupe qui adorait faire des slogans marrants. Bon, au début, la première des actions publiques qui a été faite, ça a été d'aller déposer une gerbe à la femme du soldat inconnu, plus inconnu que lui. Et puis, on a dit aussi, un homme sur deux est une femme. Bon, on a toujours inventé des slogans très drôles. C'était très divers. Moi, je me souviens avoir été à des choses organisées par des femmes lutte des classes, des femmes pas lutte des classes, etc. J'ai été à plein de choses. Et ça foisonnait, ça foisonnait, ça foisonnait.
L'attitude de tas de femmes qui ont ensuite fait le mouvement des femmes,
Leslie Kaplan,
c'était de dire, eh bien, si on ne sait pas à l'avance, ça ne fait rien. Il faut quand même essayer de penser à partir des détails, à partir de choses vraiment minimes qu'on peut éprouver, etc. Donc, il y avait certainement un côté assez anarchiste, mais je pense que c'était une chose vraiment importante. Et il y avait aussi, je crois, l'idée très forte quand même de l'amitié, et de l'amour d'ailleurs, entre femmes. Ça, c'était une chose très importante, parce que ça, d'abord, on parlait de camaraderie dans les groupes gauchistes, mais je pense vraiment que l'accent est quand même mis sur un rapport réel, amical. Ça, je crois que c'est quelque chose qui était complètement nouveau. Certainement pour le gauchisme qui était occulté.
Le 20 novembre 1971.
C'est la première grande manifestation féministe qui se tient à Paris depuis 1936. Environ 2000 femmes, souvent jeunes, quelquefois plus âgées, défilent de la République à la Nation à l'appel du MLF, le mouvement de libération de la femme. Le mouvement de libération de la femme.
Ah non, monsieur, le mouvement de libération des femmes.
Cette marche est internationale puisque des manifestations semblables se déroulent aujourd'hui aux États-Unis, au Canada, en Italie et en Allemagne.
This is no simple reform. It really is a revolution. Sex and race, because they are easy, visible differences, have been the primary ways of organizing human beings into superior and inferior groups. And into the cheap labor on which this system still depends. We are talking about a society in which there will be no roles other than those chosen or those earned. We are really talking about humanism.
La crise du gauchisme a été pas mal impulsée par la critique féministe du gauchisme. Ceci dit, je ne serais pas d'accord pour considérer que le MLF est coupable d'avoir tué le gauchisme, parce que les choses sont... Enfin, je crois qu'il y a un contexte qui change. Il y a un moment... Qu'est-ce que c'est, la crise du gauchisme? C'est la crise des utopies. C'est qu'il y a un moment où ce qui avait semblé possible, tout est possible, ne l'est plus. Ça change. Alors, autre chose, je pense, le personnel et politique, ça permet aux gens de s'intéresser à ses propres problèmes, comme un substitut à la politique qui n'est plus facile à attraper. Donc, parmi les femmes, ça s'est passé comme ça. Hein. On a, à un moment, c'était en 72-73, on a fait un groupe, le groupe du jeudi, dit aussi groupe politique extérieur, dans lequel on parlait politique, parce que on était frustrés sur le fait qu'au mouvement, on ne parlait plus que de problèmes de femmes. Bon, voilà. Donc, c'est dire que cette remise en question de la définition du politique, bon, elle est bien impulsée par les femmes. Donc, il y a une sortie du gauchisme par l'intérêt qu'on porte à ces problèmes personnels. En même temps, je pense que cette action du MLF sur la définition du politique, ça a produit aussi des changements au niveau global de qu'est-ce qu'on considère comme politique, puisque effectivement les questions, l'avortement, le viol, enfin toutes les questions que le mouvement des femmes a imposées comme étant des questions politiques et qui le sont effectivement devenues puisque l'État a été obligé de les prendre en charge, ça a ouvert pour tout le monde la définition de ce qui est politique. Donc la politique avant 70 et la politique après 80, c'est plus la même chose. Busted flat,
in Baton Rouge, waiting for a train, and I was feeling near as faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained, and rode us all the way to New Orleans. I pulled my harpoon out of my dirty red bandana. I was playing soft while Bobby sang the blues. Windshield wipers slapping time, I was holding Bobby's hand in mine. We sang every song that Javi knew. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing, I mean nothing, honey, if it ain't free.
Merci à François Spick, Leslie Kaplan, Christine Delphi, Nadia Ringard, Liane Moser, Christine Fauré, Annette Lévy-Villard et Catherine Dedon. Archivina, Olivier Tosserie. Avec les extraits des films de Comme un poisson sans bicyclette et Debout de Carole Roussopoulos. Mixage, Jean Richard Dufour. Un documentaire de Séverine Yattard, réalisé par Charles Trou.
Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing, and that's all that Bobby left me. But if feeling good was easy down when he sang the blues, hey, feeling good was good enough for me. Good enough for me.
C'était Les filles de Metz rebelles. Documentaire diffusé pour la première fois sur France Culture le 13 mai 2008 dans La Fabrique de l'Histoire. Vous pourrez réécouter cette émission en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.
Such a perfect day, drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Oh, such a perfect day. Feed animals in the zoo. And then later, movie too. And then home. Oh, it's just a perfect day. I'm glad I spend it with you. It is such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on. Just a perfect day. Problems all left alone. And weekenders on our own. Such a fun. Just a perfect day. You made me forget myself. And I thought I was someone else. Someone good. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. It is just a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on. To reap just what you sow. Ooh, you're going to reap just what you sow.
going to reap just what you sow. Ooh, to reap just what you sow.